Antoine Joubert, Germain Goyer, des vrais gars de char, le guide de l'auto.
Pas tous les jours, Germain, qu'on a la chance de conduire une voiture d'un demi-million de dollars qui va aussi perdre énormément de valeur en un temps record.
Oui, ça, c'est une autre histoire.
C'est pas les voitures qui conservent le mieux leur valeur. Gabriel Gélina et moi avons eu la chance de conduire cette voiture-là dans les dernières semaines.
C'est pas que je me sens exclu, mais quand même un peu. Hein?
Mais oui, effectivement.
On confie ça juste à des chroniqueurs automobiles d'expérience.
OK. Vivement les cheveux gris, alors.
Et on nous confirme que ce sont les cheveux gris qui confirment l'expérience et non pas la bédaine. Alors Gabriel, d'abord, parle-moi un peu de cette voiture-là sur le plan technique, parce que tu l'as conduite toi aussi sur 3-4 jours.
Exact. Ouais, le caractère demeure le même que celui des autres Rolls-Royce. Ben, évidemment, c'est une nouvelle génération, surtout le rouage intégral maintenant. Ce qu'il n'y avait pas avant.
Ouais.
Donc ça, c'est la grosse nouveauté pour la Ghost. Mais ça demeure, tu sais, ça demeure des véhicules qui sont aussi lourds qu'un Cadillac Escalade. Là, tu sais,
à 50 kilos près, exact. C'est la même chose qu'un Suburban.
Oui, exact. Mais voilà,
Suburban, alors qu'on a une berline entre les mains.
Ouais.
Là,
ouais. Exact. Oui, mais c'est gigantesque. Oui. Tu sais, quand tu la regardes sur photo, tu dis, OK, c'est une grosse berline, mais quand tu es à côté de toi, c'est épouvantable. Moi, je l'ai stationné à côté de la grosse brune chez moi. D'ailleurs, c'était assez drôle. Et c'est plus long que la grosse brune. Là.
Il y avait 500 000 $ de différence entre les deux.
Oui, exactement.
Mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est... Puis même la position de conduite, tu montes dedans, là, mm-hmm. Puis c'est vraiment surélevé par rapport... Évidemment, tu n'es pas assis comme dans un VUS, mais tu es définitivement assis plus haut que
dans
une voiture
civique,
conventionnelle,
oui,
exactement. Oui. Mais ce qui est vraiment complètement bluffant, là, c'est le moteur. C'est parce que tu t'attends pas à ce que ça marche comme ça, là. Mais le V12 biturbo de BMW, quand tu l'écrases, là, la pédale, là, tu sens la voiture. On dirait que la voiture se lève, puis ouais, là, elle part. Comme un train.
Mais tu sens rien.
Exact. Fait que tu vois juste le paysage qui défile à la vitesse grand V, puis... Tu vois même pas, il n'y a même pas de tachymètre là-dessus. C'est le cadran, ouais, c'est le power reserve.
Comme c'est drôle, ça.
Tu vois que ça bouge, là. Mais, man, t'as pas l'impression, l'impression
de l'avancer. Et pour les auditeurs, je tiens à mentionner que Gabriel nous fait des signes d'aiguilles qui accélèrent.
Mais à la radio, on les voit pas.
C'est ça,
malheureusement.
C'est juste pour vous illustrer.
Tu as parlé de la mécanique BMW. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a été chercher chez BMW avec cette voiture-là? Parce que, on parlait du prix en introduction. Il faut quand même justifier cet écart considérable.
Ouais. L'autre chose qui est importante de mentionner à propos de la Ghost, c'est que c'est la nouvelle plateforme.
C'est ça.
Ce que Rolls-Royce s'appelle Architecture of Luxury. C'est pas comme avant. La première Ghost, c'était essentiellement une plateforme de 6-7 exactement modifiée. Mais là, il y a beaucoup plus d'éléments qui sont vraiment des éléments propres à Rolls-Royce, notamment l'architecture, la structure. Donc, c'est pas rien. Et l'autre truc qui est vraiment très intéressant de cette voiture-là, c'est évidemment la suspension avant avec ce qu'ils appellent le Planar Suspension System. Et ça... c'est une suspension vraiment, vraiment très bien mise au point qui fait en sorte que c'est un peu comme si tu avais un amortisseur supérieur sur le triangle de suspension supérieure. Et ça élimine toutes les vibrations à haute fréquence. Et sur une route, il faut vraiment que la route soit maganée, là, comme on dit en bon québécois, là, vraiment fracturée pour que tu sentes quelque chose. Mais
et comme il n'y a pas beaucoup de routes qui sont fracturées au
sur
Québec,
les routes où il y a des ondulations ou des petites bosses, là, tu sens rien.
C'est ça. Tu flottes. Ouais. Puis c'est comme, en fait, pour vulgariser, c'est un peu comme s'il y avait une suspension sur la suspension.
Oui, tout à fait.
Donc, tout ce que la première suspension ne fait pas, la deuxième vient régler le problème. Mm. Puis c'est une auto qui est tellement lourde en plus. Fait que non seulement tu comprends que, tu sais, bon, tu flottes parce que tu as une suspension qui est pneumatique avec tout ce système-là qui vient faire le travail énormément, mais le fait que la voiture soit lourde, bien, il y a comme un contre-ballant. D'un côté, tu as une suspension qui te fait rouler sur un nuage puis qui te donne l'impression que l'auto est presque légère, comme si tu flottais. Mais d'un autre côté, tu es extrêmement « groundé », si mm-hmm. tu me permets l'expression, sur la route. Bien plus qu'avant, parce que c'est une voiture qui est stable quand même.
Oui, tout à fait. Mais évidemment, ça reste une masse très élevée. Là. Tu ne vas pas rouler vite dans les virages ou quoi que ce soit. Mais toujours est-il que le comportement est très rassurant, très prévisible aussi. Et l'autre truc qui est cool aussi de cette voiture-là, c'est toutes les petites touches qu'ils ont conservées, comme par exemple l'ajustement de la chauffage, climatisation. Ouais, c'est encore les vieilles molettes avec les tirettes pour ouvrir ou fermer les buses de ventilation. Ça, c'est,
on a encore les parapluies aussi, évidemment.
Oui, les parapluies intégrés dans les portes. D'ailleurs, il y a, je pense, la seule pièce qu'ils ont retenue de l'ancienne Ghost sur la nouvelle, c'est le Spirit of Ecstasy, c'est-à-dire le symbole qui est à l'avant de la calandre, et les parapluies dans les portes. That's it. Tout le reste, là, même si la voiture a sensiblement le même look que l'ancien modèle, mais tous les panneaux de carrosserie,
parapluie
tout le reste
qui coûte en passant 1 800 $ chacun.
Ouais, oui. donc on peut facilement tomber, puis là, je ne sais pas si rendu dans ces sphères-là, on parle de piège, mais on peut la personnaliser la voiture comme on veut. On peut cocher des options.
Cette voiture-là avait 129 000 $ d'options.
Exact. Et puis, elle n'avait pas tout, là, en plus.
Non.
Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Tu sais, pour te dire, quand tu dis qu'il y a un frigo avec deux flûtes à champagne dans la coudoir centrale en arrière.
Mais la Caliber avait le coffre à gaz réfrigéré, mais je pense pas qu'il y avait
la Dodge Caliber.
Ouais, c'est ça. Mais je pense pas qu'il y avait
dans le même registre.
Je pense pas qu'il y avait de flûte à champagne. Non,
le ciel étoilé avec les étoiles filantes.
Ouais, non, c'est sûr que si on est dans le domaine du très très grand luxe, il y a personne qui a besoin de ça, mais pour les gens, puis juste 500 000 $ c'est énorme comme prix, là, comme voiture. Bref, il faut vraiment vouloir conduire ça, puis s'afficher, puis l'assumer aussi, parce qu'il y a quand même un certain...
Je veux t'amener là, Gabriel, parce que, tu sais, moi, j'avais fait les calculs de façon un peu cocasse. 461 000 $ plus taxes fait 530 000 financé sur 6 ans à 5 % de taux d'intérêt, c'est toujours bien 8 800 par mois.
Oui, c'est ça. Okay? Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui financent
ça. Il y a personne qui finance ça, mais j'ai fait le calcul de façon cocasse. Mm. Puis, comme tu dis, à ça vont s'ajouter... Bon, tu pourrais ajouter encore beaucoup plus d'options, et puis il y a toutes les taxes de luxe, tout ce que tu voudras qui vient avec. C'est indécent comme facture.
Et ce qui est fascinant, c'est que c'est la petite Rolls-Royce en plus.
Bon.
En plus.
Mais qui achète ça?
Ouais.
Ouais, ben écoute.
Parce qu'ils en vendent quand même une vingtaine par année au Québec, là, ces trucs-là?
Oui. Ils en vendent, je pense, effectivement, à peu près ça, une vingtaine par année. Qui achète ça? Écoute, c'est de toute évidence, des gens qui ont beaucoup, beaucoup de moyens.
De toute évidence, pas toi et moi.
C'est ça. Mais disons que, tu sais, moi, personnellement, je m'achèterais jamais ça, là, mais je peux comprendre, par contre. Tu sais, je peux comprendre l'intérêt des gens pour ce niveau de confort-là. C'est sûr que la consommation est astronomique. On parle d'une consommation de VUS.
Oui, mais par rapport à ce que c'est... Tu sais, honnêtement, je me serais attendu à pire. Parce que moi, j'ai fait un Montréal-Québec sur autoroute là, à 12 litres et demi au 100. J'ai trouvé ça raisonnable. En ville, c'est effrayant.
Mais proportionnellement, le montant qui va être dépensé en essence par rapport à celui du coût de la voiture n'est pas si élevé comparativement à une voiture ordinaire.
Oui, c'est vrai.
Proportionnellement,
De toute façon, les gens... Cette voiture-là, tu sais, va servir à quoi? Il y a des gens qui s'en servent comme on dit en anglais, comme « daily driver », comme voiture de tous les jours. Surtout depuis maintenant qu'il y a le rouage intégral qui est de série.
On salue M. Saputo, d'ailleurs.
Exactement. Donc là, tu peux envisager l'idée de mettre des pneus d'hiver puis conduire ta Rolls-Royce en hiver. Pas sûr si on va en avoir beaucoup sur la route. Peut-être plus des Cullinan que des Ghost. Mais ça demeure une possibilité maintenant. Ça devient plutôt une possibilité maintenant, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Tu sais, donc... Tu te déplaces. Puis, tu sais, quand tu roules sur l'autoroute des Carrés, tu passes devant le concessionnaire, tu as toujours les 5-6 Rolls qui sont alignés dans la salle de monte. Puis, honnêtement, ils prennent soin, ce concessionnaire-là, de rouler l'inventaire pour que tu ne vois pas tout le temps les mêmes 5-6 voitures, même s'ils n'en ont pas 200 en inventaire. On s'entend, à 5-6, 700 000 la copie, à un moment donné.
Non, mais... et d'en avoir en inventaire, je ne sais pas, parce que quand tu veux. Quand tu es rendu, justement, dans cette sphère-là, tu veux l'avoir selon tes goûts à toi, pas nécessairement. Nécessairement selon les goûts de celui qui l'a commandé.
Oui, sauf que quand ton client arrive dans la salle de montre...
Qui vient de gagner l'Automax et qui dit « j'en veux une
». Peut-être, mais surtout, c'est une chose de regarder, puis on fait tout ça, là, toi, moi, Antoine, on s'amuse des fois avec les configurateurs sur Internet à se monter des bagnoles puis qu'on n'achètera jamais. Mais c'est possible de faire ça aussi avec Rolls-Royce. Mais quand tu es dans cet univers-là, même chose comme chez Ferrari, même chose chez Lamborghini et tout, de voir l'auto qui est devant toi, de voir les cuirs, de t'imprégner de cette ambiance-là. C'est souvent ça aussi qui va être un élément déclencheur. Et là, à partir de ce moment-là, oui, tu peux t'asseoir avec le sympathique conseiller et passer des heures et des heures à configurer ta voiture.
T'sais. Ou prendre celle qui est là.
Ou prendre celle qui est là, si elle te convient, si elle a les options que tu aimes, ce genre-là. Mais effectivement, quand on est rendu à payer ce prix-là, c'est un peu comme...
Parce que modèle que vous avez essayé, bon, gris céramique. Bon, jusque-là, ça passe, mais c'est les accents de mauve. Est-ce que j'aurais choisi ça? Je suis pas certain.
Non, mais en même temps, tu sais...
Ça la rend unique.
Oui, et puis aussi, moi, j'aime ça aussi quand un constructeur ose un peu,
oui,
quand ils produisent une voiture qu'ils savent qu'il va être destinée à l'usage des journalistes, des choses comme ça, de te montrer ce qui est possible.
C'est ça, ça illustre les possibilités, voilà, de personnalisation de la voiture.
Exactement. Tandis que quand, à chaque fois qu'on va chercher une voiture de presse, puis elle est noire, intérieur noir, tout ça, on trouve ça dolle parce que les photos sont moches, parce que c'est la pire couleur, tu sais, pour les photos, pour voir les lignes de carrosserie. Alors, quand ils font l'effort de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, ils vont peut-être être... Puis ils ne seront pas pris avec. Il y a quelqu'un qui va l'acheter, cette voiture-là, après qu'on ait mis quoi, 12 000 km dessus, ouais, collectivement. Puis ils ne seront pas pris avec. Mais moi, j'aime ça quand un constructeur automobile joue un peu d'audace puis nous propose des choses qui sortent de l'ordinaire puis qui nous montrent ce qui est possible.
Puis, tu sais, aujourd'hui, pas que les gens sont plus riches que jamais, mais on dirait qu'aujourd'hui, tu vas rouler... C'est rendu qu'on voit des Lamborghini Urus quasi quotidiennement, ouais, quand tu roules dans la grande région métropolitaine. C'est même plus rare des véhicules à 250-300 000 $. Alors, la personne qui veut vraiment avoir une exclusivité, bon, clairement, tu t'achètes pas un VUS de luxe, parce que les VUS de luxe sont plus... un G-Class, ouais, Mercedes...
Non, c'est certain, mais si on reste chez Rolls-Royce, le Cullinan, ça, on n'en voit pas, là.
Bon, on n'en voit pas, mais on en voit trois fois plus que des Ghosts.
Oui.
Oui, c'est rare,
oui,
on s'entend.
Oui.
À 500-600 000 la copie, c'est pas tout le monde qui a l'argent, ni l'intérêt d'aller mettre cet argent-là là-dessus. Mais, tu sais, c'est pas rare de voir des Cayenne Turbo S, puis des VUS qui coûtent 150-200 000 $. Il y, oui, en a sur les routes aujourd'hui. C'est même pas rare. Puis tu vas croiser des Lamborghini l'été, tu vas en voir, tu sais, bon, des Ferrari. En termes de volume, est-ce qu'il y en a en proportion plus qu'il y en avait dans les années 80? Je pense que oui. Par rapport, même si le parc automobile a grossi, l'accessibilité à ces véhicules-là me semble aujourd'hui peut-être même plus facile qu'à une certaine époque. Mais Rolls-Royce, ça demeure exclusif.
C'est vrai ce que tu dis, mais c'est aussi, je pense, fonction du volume de vente, tu sais, de la marque. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, Rolls-Royce produisait pas tant de voitures que ça par année. T'sais, c'était, ouais, vraiment très, très rare. Là, on est rendu dans des chiffres qui sont 4 000, 5 000, 10 000 voitures par année, ainsi de suite. Puis, même chose chez Ferrari. Ferrari, tu sais, avant, c'était comme genre, ils produisaient 4 000, 5 000 voitures par,
ouais,
année.
Oui, ils ont dépassé le cap des 10 000 il y a deux,
exactement,
ans, je pense.
Fait qu'il y a plus, il y a de plus en plus. Puis, même chose chez Lamborghini. Alors, le fait qu'il y ait plus de capacité de production fait en sorte que, effectivement, ils en vendent plus et puis t'en vois un peu plus sur la route, surtout dans certains quartiers, dans certaines régions, évidemment.
Mais les Rolls, ça demeure des voitures...
D'exception.
D'exception, oui, hyper exclusive. T'en verras jamais deux pareilles. Tu sais, il y a personne qui commande ça. Oh, prends-moi-en trois de même.
Non.
Chaque Rolls-Royce est personnalisé. Tu sais, cette voiture-là, la liste des options, tu l'as regardée avec, oh, comme, ouais, moi, là, c'est invraisemblable. Là. Ouais. Le premier groupe d'options de luxe, c'était 32 000 $ avec, exactement, le pavillon étoilé.
Mais en même temps, tu le veux, ce pavillon-là étoilé, parce que,
oui,
tu sais que c'est possible, puis tu sais que les autres qui ont été commandés, ils vont probablement l'avoir aussi, puis c'est une caractéristique intéressante. C'est un feature intéressant.
C'est surtout ce qui rend la voiture unique,
ben oui,
par rapport aux autres marques, parce qu'il n'y a personne d'autre qui propose
les tapis en laine d'agneau, ouais, à 4 000 $, l'emblème qui se déploie sur le devant du capot, c'est 5 500. La grille qui est éclairée.
Le rétroéclairage, c'est ça. Juste le rétroéclairage, c'était 4 500 l'option, je pense.
Wow. C'est ça. Ça finit pas. On peut, l'horloge au tableau de bord analogique,
oui,
avec la signature Rolls dedans, 6 500 $.
Mm-hmm.
Tu sais, ça finit pas. Fait que, tu sais, je disais à la blague qu'une option sur cette auto-là, c'est le prix de ma vieille minoune chez nous.
C'est à peu près ça.
Ouais. Alors, tu sais, dans quelle sphère tu navigues quand tu commences à faire la sélection des options? Mais quand tu roules dans cette voiture-là, tu sais, l'autre affaire aussi, c'est que Gabriel disait, oui, on a un châssis plus solide, mm-hmm. on a une suspension qui est, tu sais, ça n'a rien de sportif. Et il n'y a même pas de mode sport, tu peux pas jouer avec les modes de conduite, c'est comme ça qu'on te la sert, c'est comme ça que ça va rouler.
Ça m'amène à vous poser une question à tous les deux. Tu parles du mode sport, on joue tout sauf cette carte-là chez Rolls-Royce, alors que chez les autres manufacturiers de prestige, on va jouer, incluant Bentley, de plus en plus, on mise sur ce côté sport-là.
Oui, mais chez Rolls-Royce...
Est-ce qu'on a raison de poursuivre
chez Rolls-Royce, à champ gauche? Ils ont autre chose, ils ont le Black Badge, qui sont les voitures de la série Black Badge, qui sont un peu plus typées, un peu plus dynamiques, un look un peu plus... on dirait un peu plus sinistre parfois, là, un peu à la Darth Vader là, et tout. Mais il joue aussi sur ce sur
mais
ce
on verse pas dans le sport. Mais,
non, parce c'est que ça. L'identité de la marque, c'est pas ça. Bentley, c'est les 24 heures du Mans, c'est ces choses-là. Rolls-Royce, c'est autre chose. On est dans un autre registre. Et puis, même si les deux, ce sont deux marques célèbres britanniques, elles ont vraiment deux caractères qui sont
Elles ont déjà
distinctes.
Été beaucoup plus proches qu'en ce moment.
Même si ce sont maintenant deux marques anglaises qui sont contrôlées par
des Allemands,
exactement. Rolls-Royce est en propriété du groupe BMW, puis évidemment Bentley, propriété du groupe Volkswagen.
La dépréciation, ça ressemble à quoi sur un modèle comme ça? Est-ce que c'est un modèle qui va maintenir sa valeur, qui va bien évoluer ou...
Tu sais, moi, c'est pas compliqué. Avant que j'essaie cette voiture-là, j'étais allé essayer... La dernière voiture que j'avais conduite avant ça, Rolls-Royce, c'était une Rate 2017. Ouais. Donc, ça fait quand même 4 ans. Puis je vais toujours me souvenir, j'étais allé chercher la Raid chez le concessionnaire. Elle était à 430 000 $ la Raid que je conduisais. Et dans la salle de montre, il y avait un modèle identique à celle-là. Bon, une Raid, mais 2016, donc un an d'usure, 6 000 km au compteur, avec, je dirais pas le même équipement, mais disons un niveau de luxe équivalent. Et la voiture était 125 000 $ de moins, ce que le concessionnaire demandait par rapport à une neuve. Donc, une voiture d'un an et de 6 000 km coûtait, usagée, elle était comme une neuve, là, on absolument. S'entend, là. Un an et 6 000 km, c'était 125 000 $ de dépréciation.
Et ça fait que finalement, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Oui, il y a des gens qui ont un coup de cœur instantané, qui vont l'acheter, mais il y a aussi un lot de clients qui vont vouloir la commander selon leur goût et être les premiers à s'asseoir dedans.
Parce que ces voitures-là, tu sais, je veux dire, une Maserati, ça déprécie. Pourquoi ça déprécie une Maserati? Parce que tu te présentes chez le concessionnaire, ils en ont 25 en stock, faut qu'ils écoulent, puis ils sont pas capables, puis là, ils te mettent des rabais. Puis ils partent une compagnie de location on the side pour te les passer. Parce que, je veux dire, l'offre est de loin supérieure à la demande. Puis ils n'ont pas réussi, à cultiver l'image de la marque. À l'opposé, chez Ferrari, tu vas te présenter là-bas, tu veux t'acheter une Ferrari. Oui, tu vas t'acheter une Ferrari, elle va déprécier un peu la première année. Sauf que...
Ça, c'est si tu réussis à en acheter une.
Bien, c'est ça l'affaire. C'est que tu commandes ta voiture.
Oui. Puis ce qui va se passer, si jamais tu gagnes à la loterie puis tu t'en vas chez Ferrari Québec, ils ne te vendront pas une voiture neuve.
Non.
Parce qu'ils n'en ont pas en stock. Ils vont dire, Monsieur Goyer, on va vous vendre celle-ci qui est une voiture usagée, qui a 12 000 km. Je veux dire, roulez avec ça pendant 6 mois, 1 an. Revenez nous voir, puis prenez-en soin, faites pas trop de kilométrage et tout. Puis là, on va pouvoir peut-être vous transférer sur une Spider, par exemple. Mais ce ne sera toujours pas une voiture neuve, ça va être encore une voiture usagée. Puis
il faut se qualifier. Il faut bâtir son dossier.
Mais c'est parce que ce qu'ils veulent pas.
Ça dépend aussi, tu sais.
Ce qu'ils veulent pas, c'est que ce soit des feux de paille.
Ouais.
Parce que tu peux avoir de l'argent du jour au lendemain, puis la première affaire qui te vient en tête, « Ah, je vais m'acheter une Ferrari. » Puis 6 mois après, tu n'as même plus les moyens de la rouler parce que tu as flobé ta fortune ou n'importe quoi. Alors, l'image de la Ferrari, c'est pas ça. Ce qui arrive chez Lamborghini,
absolument.
Par exemple.
Parce que chez Lamborghini, la clientèle, t'en veux une, on va t'en vendre une.
Oh, oui, absolument. Puis on a de l'inventaire. Puis, tu sais, bon, peut-être pas dans certains modèles, mais si tu veux avoir la performanté telle, là, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, Lamborghini, c'est beaucoup plus du bling-bling, si tu veux mon avis, que Ferrari en termes de on liquide, puis on a, puis on passe un autre appel. Puis Rolls-Royce, l'affaire, c'est que c'est pas ça. C'est que le prix est tellement indécent que la dépréciation n'a pas le choix d'arriver. À l'exception de, tu sais, si c'est un modèle hyper exclusif, qu'il y en a, qu'il n'y en a pas, pratiquement pas eu dans le monde. Là, c'est une autre affaire. Mais je veux dire, une Ghost, je ne peux pas dire une Ghost régulière, mais c'est la plus... Je peux-tu dire le standard des Rolls-Royce?
Oui, même s'il n'y a rien de standard.
Ce qui va déprécier le plus, selon moi, c'est une Cullinan. Ça, c'est sûr.
Ah oui?
Parce qu'il y a
pourquoi?
Parce qu'il y en font.
Il y en a trop?
Parce qu'il en font, parce qu'ils en vendent, puis parce qu'à un moment donné, tu atteins la limite. Là. Mm-hmm. C'est le véhicule. Comme l'Urus chez Lamborghini. Ouais. Un Urus chez Lamborghini, c'est de la chute libre, la dépréciation de ça. Là. Mm-hmm. C'est sûr. Alors, tu sais, mais je suis certain, Gabriel, que tu as été content de conduire la Rolls.
Ah, ben écoute, c'est sûr.
Ça fait changement.
Oui, tout à fait. Ça change des Hyundai Elantra puis des Kia K5 et autre chose.
Ah, ben ça change même d'une Audi A4. Ah, ouais, ça change de. Bon, c'est un univers.
Puis c'est ça qui fait un peu le charme de notre métier, c'est de pouvoir.
De sauter d'un à l'autre.
Oui, puis de faire un petit reset du computer à chaque fois qu'on change de voiture. Ouais, ajuster les barèmes.
Mais je me fais de voir. Tu sais, moi, j'étais passé d'une RS6 à une Mirage.
Oui.
Tu vois, ça avait bien fonctionné. Non, c'est pas vrai. J'étais passé d'une M5 compétition à une Mirage. Retour à la réalité assez brutal.
Oui. Il faut se réadapter.
Merci, Gabriel.
Hey, salut, boys.
Okay,
merci. Bye-bye.